Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toute une vie, le portrait sonore d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et peut-être surtout les suivantes. Aujourd'hui, Lenny Bruce, une histoire du stand-up. Une émission proposée par Anaïs Quien avec Sylvia Favre. Lenny Bruce faisait rire ou grimacer en se tenant debout face au public dans les clubs new-yorkais des années 50 et 60. Il est l'ancêtre de tous les comiques de stand-up, les nuits de garde à vue en cellule de dégrisement en plus. Lenny Bruce cassait toutes les vitrines de l'ordre moral claqué de son époque et retournait l'obscénité contre ceux qui la décrétaient. Rire en l'écoutant, c'était accepter que ça pique et que ça grince. Oreilles sensibles, s'abstenir. Tout de suite, dans toute une vie, Lenny Bruce, sous vos applaudissements.
Ladies and gentlemen, Lenny Bruce. Are there any niggers here tonight?
Lenny Bruce revendique une liberté de ton.
And what did he say?
Et c'est ce qui le distingue, en fait, des autres comiques.
Are there any niggers here tonight? Let's see, there's two niggers, and between those two niggers sits a kike.
Il se moque de tout et de tout le monde.
Rien que quand il entrait, je sais pas ce qu'il faisait, il avait encore rien dit, tout le monde était écroulé, sauf les deux flics du fond de la salle qui l'attendaient pour l'emmener direct en cabane.
Et cette audace, qui est une forme de courage, l'expose en fait plus que d'autres aux réactions virulentes à son égard des gardiens de l'ordre. Ordre moral, ordre politique, ordre religieux. Lenny Bruce n'est pas un militant, c'est un libre penseur.
Lenny Bruce, pionnier et martyr du stand-up, par Romain de Becdelièvre et François Teste.
Dans son supposé divertissement, il y avait une portée critique très très puissante. En fait, il se présentait comme un satiriste médecin guérisseur.
I'm amazed at any guy who can go into a public toilet and do anything but piss and leave. Guys who can wash their hands are amazing to me. I just go up, out.
Dans son autobiographie, il écrit ceci. Le monde, et ça le définit totalement. Le monde est malade. Le monde est malade et je suis son médecin. Et je suis un chirurgien qui retire avec son scalpel les fausses valeurs.
Poetry and jazz. Psychopathia sexualis. I'm in love with a horse that comes from Dallas.
Son nom a été chanté par Nico, Bob Dylan, Simon et Garfunkel. Son œuvre a été citée par les écrivains Philippe Roth, Romain Gary et Don DeLillo. Sa silhouette apparaît même au dernier rang de la photo de classe imaginée par les Beatles pour la pochette du Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. À l'écran, il a été incarné par Dustin Hoffman dans un film des années 70 et plus récemment par l'acteur Luke Kirby dans la série The Marvelous Mrs. Maisel. Il est né Leonard Alfred Schneider, mais sur les scènes, on l'appelait Lenny Bruce. Ce nom est à la fois celui d'une star et celui d'un inconnu presque parfait. Pourtant, Bruce fut l'un des pionniers de cet art qui consiste à faire rire un public en se tenant debout devant lui avec un micro, le stand-up. La voix de Lenny hante l'histoire des arts vivants et des formes comiques, celle de l'Amérique et du discours libre, un peu comme un fantôme.
Now, if now go to Australia. Go to Australia. They introduce me and I hear the microphone. The first sound I hear in the nightclub is... What's the guy doing? Donald Duck, man? Is it... No, hey, does that mic sound weird to you? No, it's a good microphone system. Okay, I get on stage. Oh, Christ. Now there's a chick gets up. You're from America. Do something new. Do some of your new stuff. Do the new stuff. Something new. And she's really breaking my chops with this man. And just... Fuck you! How's that? That's pretty new, isn't it? Oh, that's all, okay. Next day, headline, sick women's faint at air in sex jokes and disgusting blah blah blah. Okay, what?
Steve Krief, vous avez soutenu une thèse sur Lenny Bruce en 2005. Si on remonte à l'origine, dans quel milieu social il émerge ?
Alors, les parents de Lenny Bruce sont Myron Mickey Schneider, qui est un vendeur de chaussures, petite vie, voilà, classe moyenne. Et il épouse Salimar Kitchenberg, surnommée Marsal, qui est une danseuse, qui a remporté le concours de beauté, qui fait plein de petits boulots dans le monde du showbiz, qui est connue surtout pour ses imitations à l'époque, d'acteurs comme Bogart, Cagney. Et ils se rencontrent sur une piste de danse.
Et donc Lenny Bruce, il grandit dans un milieu qui a un rapport avec le spectacle déjà.
Oui, sa mère, ce qui est assez original pour l'époque, il y a peu de femmes artistes, à part confinées à certains rôles de, on va dire, de striptease ou surnommées burlesques à l'époque. Alors lui, Lenny Bruce, grandit dans la ville de Belmore, une petite ville proche de New York avec 16 000 habitants. Petite bourgade donc près de New York. Lenny Bruce préfère l'école buissonnière à l'école privée où son père veut le mettre. Et ses parents divorcent en 1933. Donc Mickey se remarie en 1936 avec Dorothy Cohen. Et Lenny Bruce vit avec eux de ses 11 à 15 ans dans la petite ville de Lawrence, pas très loin, également dans le Long Island. Et c'est une ville où il y a pas mal de juifs libéraux, comme leur famille, donc les parents de Lenny Bruce sont juifs, et on va dire libéraux, donc progressistes, qui ont vraiment de s'américaniser, qui font partie de cette génération du début du XXe siècle, de nombreux juifs d'Europe de l'Est qui ont migré, dont on a vu dans plein de films et livres là, qui parlent de ça.
Il vient d'une famille juive de la côte est des États-Unis. En quoi ça a formé d'une certaine manière son humour pour vous, Guillaume Aurignac ?
Alors la formation de son humour, ça vient, on pourrait dire, ça vient essentiellement de sa mère. Sa mère, c'était une jeune femme délurée, pétillante, pleine d'énergie et un peu irresponsable, qui aimait beaucoup danser, parce qu'évidemment son père, lui, était quelqu'un de beaucoup plus consciencieux, travailleur, avec une éthique du travail et de l'épargne. C'était la fourmi, sa mère était un peu la cigale. Mais sa mère, pendant qu'il est parti faire son service militaire, donc sa mère, elle, pour gagner les moyens de son existence, s'est mise à donner des cours de danse, mais aussi à monter sur scène. Et elle est devenue une humoriste, une comédienne, comme on dit en Amérique. Donc c'est elle la première qui l'a fait monter sur scène, en fait, un soir où le MC, l'animateur de la soirée, était absent, il était malade. Et c'est donc Lenny, elle l'a fait monter sur scène et qui a animé la soirée. Ça a été son premier contact avec la scène, le spectacle, et il n'en est plus jamais descendu après ça.
And now, ladies and gentlemen, Lenny Bruce.
Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. That's because you're good. Wow, look at that. We seem to have some company here tonight. Listen, could you throw the spotlight over there against the wine chest? I'd like to welcome some friends. I think they're here. Ah, yes, there they are. Good evening, fellas. Hi guys.
Steve Krief, est-ce qu'on peut dire que Lenny Bruce est fondamentalement un autodidacte ?
Tout à fait, c'est vraiment un autodidacte parce qu'il va aller à l'école la plus dure et la plus forte qui va être la guerre. Parce que là, après l'école buissonnière, donc il va travailler dans une ferme chez les Dengler, et à un moment, bon, tout ça va le lasser quand même, et il va se dire, je cherche autre chose. Et il y a cette grande aventure, entre guillemets, qui va être la guerre, la Seconde Guerre mondiale qui arrive, et où beaucoup de jeunes vont s'inscrire pour y participer, pas nécessairement par patriotisme, mais pour se dire, allez, tous ces lieux dont on me parle même, cette Europe dont on parle dans la musique, dans les livres, et j'ai envie de voyager, de voir d'autres choses, etc. En 42, il s'engage, entre dans la marine et il va participer à de nombreux débarquements en Afrique du Nord, en Italie, en France, en Sicile. Et là, ça va être sa grande formation. Déjà, par le théâtre, entre guillemets, des horreurs, tous ces millions de morts, et pas seulement des chiffres lointains, mais tout près de lui. Quand son bateau est bombardé par les avions allemands, il voit la tête de ses camarades heurter dans l'eau le bateau, donc c'est assez effrayant. Et puis aussi, il a beau avoir 17 ans, il ne va pas très bien comprendre, par exemple, pourquoi il y a des soldats noirs qui se battent à côté de lui, mais il va se dire, c'est bizarre, on demande à ces soldats de servir leur pays, mais ils n'ont pas le droit d'accès aux chiottes dans certains états du Sud. Donc déjà, ça veut dire, il va se dire, c'est pas possible. Et puis aussi, au début, quand il est dans son camp d'entraînement, on dit, oui, tu dois être un soldat modèle, tu dois être ceci, cela, vraiment rigoureux, et tu représentes la nation, blablabla. Une fois qu'il arrive sur les terrains d'opération, ces mêmes officiers encouragent les soldats à fréquenter les bordels. Donc pour se soulager, entre guillemets, de tout ce qu'ils vivent. Donc allez-y, défoulez-vous un petit peu, comme ça vous servirez à nouveau comme de bons soldats. Et donc, tous ces paradoxes vont le former.
Laissez-moi expliquer ce qui est juif et ce qui est goy. Je vais vous montrer comment ça marche.
Gene Ammons, c'est juif.
Ray Charles, c'est très juif.
Al Jolson, goyish.
Al Jolson, c'est goy.
The army is goyish.
L'armée de terre,
the navy is
goyish. La navy, goy.
The Marine Corps is goyish.
Le corps des marines, goy.
The Air Force is Jewish.
L'Air Force, juif.
Kool-Aid,
Kool-Aid, goyish. Les boissons en poudre, goy.
Very good.
Très.
Instant potatoes,
la purée instantanée, ou goy. Ça fait peur.
There was a thing in Life magazine.
Dans Life magazine, il y a une photo d'un type dans la montagne. Il a une corde enroulée autour du corps. C'est une pub pour les cigarettes Camel. Son nom est incroyablement goy. Il s'appelle Bob, B-Y-H-R-E. Bob, B-Y-H-R-E. Bob Burr. Son nom est si goy qu'on ne peut même pas le prononcer. Bob Burr. Bob Burr grimpe dans les Alpes pour sauver des vies. Pour rien. Il risque sa vie pour sauver des gens pour rien. Quel juif ferait ça? Bob Burr le fait.
Steve Krief, il y a une influence quand même de la langue yiddish et de la culture yiddish dans les textes et dans les sketchs de Lenny Bruce.
Oui, c'est très présent. Il y a beaucoup d'humoristes juifs à l'époque. Ce n'est pas parce que les juifs sont plus doués pour l'humour. C'est déjà un peu culturel, parce que dans la Bible, le deuxième personnage important, Isaac, la signification de son prénom en hébreu, c'est « il rira ». Yitzhak, il rira. Donc c'est très présent dans la culture juive, et même ce côté de défier Dieu. Il y a plusieurs personnages qui défient Dieu, donc il y a cette chutzpah, ce qu'on appelle le culot, que les humoristes vont utiliser après, mais c'est aussi parce que la culture dite populaire est léguée à ceux qui ne sont pas des WASP, donc que ce soit les juifs, les noirs, les italiens, les homosexuels, tous ceux qui font partie, entre guillemets, des minorités non acceptées, donc ils sont cantonnés à ces arts-là. Donc on estime qu'ils ne sont pas assez bons pour l'opéra ou pour les grandes classique Shakespeare, donc allez faire vos petits trucs, on s'en fiche, mais voilà, divertissez-nous à la limite de temps en temps, mais pas trop. Et c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de juifs et de noirs et d'homosexuels et d'italiens dans la BD, dans le cinéma, sur scène, dans le vaudeville et dans l'humour, parce que ce sont des arts qui ne sont pas nobles.
We're all the same schmuck. And it just cracks me up that we try so desperately to be unique when we're all the same cat. Eisenhower, Kennedy, Johnson, me, you, every cat has got that one chick who really busted up his ass.
Comment elle est intégrée, la communauté juive de l'époque, celle de laquelle Lenny Bruce fait partie, dans la société américaine?
Alors Lenny Bruce, c'est un truc assez drôle où il dit on peut être fier d'être juif, mais pas heureux. Parce que si vous êtes heureux, c'est que vous êtes vraiment sadomaso. Parce que là, c'est comme moi à l'armée. Toujours on me faisait remarquer, ah le juif, ouais, alors je suis juif, etc. Mais de là, être heureux d'être juif, avec tout ce qu'on se prend sur la tronche, là, non. Donc là, les juifs, comme bien sûr, vont pas vivre autant de discrimination que les noirs, mais on va dire comme les italiens, comme les homosexuels, ils sont quand même assez limités sur certaines choses. Et notamment, par exemple, des fois, l'accès à certains hôtels. Par exemple, Harpo Marx va être rejeté d'un hôtel et il va appeler en disant « Je voulais réserver pour Harpo Mac Marx. Est-ce que là, vous m'acceptez ?» Ou la fameuse phrase de Groucho aussi, lorsqu'il arrive dans un country club et on lui dit « Désolé, vous pouvez pas entrer, la piscine est interdite aux Juifs. » Et il est là avec sa fille et puis il dit « Est-ce que ma fille peut se baigner jusqu'aux hanches puisqu'elle est qu'à moitié juive ?» Et donc, ça va être assez violent. Et c'est là que Lenny et d'autres vont aller à la grande école de formation qui vont être les Catskills. Ce sont des chaînes montagneuses dans le nord de New York. Les Juifs étant interdits de beaucoup d'hôtels, ils vont se retrouver, les Juifs de New York, là-bas, en vacances. C'est un lieu de fermiers. Il y a quelques fermiers juifs qui vont dire à leurs cousins « Ah ben, écoute, viens passer un peu de temps en famille. » Et puis le bouche à oreille, etc. Ça va commencer à être populaire. Ils vont construire des petits motels sur place. Et donc, cette classe populaire et moyenne juive va aller dans ces hôtels-là. Et donc, vu que ce ne sont pas de grands hôtels, ils n'ont pas les moyens d'avoir de grands humoristes pour divertir les gens, ils vont accueillir des petits jeunes, des Woody Allen, des Jerry Lewis, des Mel Brooks, des Joan Rivers. Tous ces jeunes humoristes vont commencer à travailler leur material, comme on dit. Donc, ils vont balancer des choses, ils vont voir comment ça marche. Mais avec un énorme défi. C'est-à-dire, à la fois, il faut divertir les parents, qui ont leurs références, on va dire, un peu tradies, donc en parlant de bouffe, la cuisine juive, etc., et les difficultés de s'intégrer, ils vont rigoler là-dessus, mais ils veulent plaire aussi à la jeunesse. parce qu'on est vraiment début des années 50, et cette jeunesse qui a la soif de la vie américaine, de la route américaine, des Ginsberg, des Kerouac, qui rêvent donc de faire partie de cette vie, surtout les femmes qui ont envie aussi des mêmes plaisirs, des mêmes droits que les hommes. Donc il y a cette émancipation, donc parler aux deux publics, c'est ça le grand défi. Qui est bien montré d'ailleurs dans la série Mrs. Maisel. Il y a aussi quelques épisodes qui se passent là-bas. Lenny Bruce est un des personnages principaux et cette jeune femme humoriste qui confronte à un moment son père aux Catskills parce qu'elle est là-bas, elle joue discrètement dans un hôtel à côté et elle se retrouve face à lui un soir, donc hyper gênée.
1, 2, 3, 4. Nothing could be finer than to spend the day at Steiner in the summer.
I remember it!
Nothing much convinces like the taste of Steiner glimpses in the summer.
Just the girls now.
Play all day and dance all night.
Now the boys.
All us happy Israel love.
Lenny Bruce émerge dans le contexte de l'Amérique des années 50 et 60.
Olivier Pénaud-Lacassagne.
Il officie d'une certaine façon sous quatre présidences, Truman, Eisenhower, mais aussi Kennedy, plus libéral sans doute, et Lyndon Johnson. C'est tout d'abord une Amérique triomphante, optimiste, conquérante. On parle de jours heureux, on parle de rêve américain, d'American way of life, pour qualifier en fait une décennie d'expansion et de consommation dont profitent les classes aisées blanches et les classes moyennes blanches. Mais c'est aussi dans un temps de guerre froide où le monde est divisé en deux blocs, l'Ouest et l'Est, le bloc libéral et le bloc soviétique, c'est aussi une Amérique du soupçon et de la suspicion. C'est l'Amérique du McCarthyisme. C'est donc le temps d'une Amérique paranoïaque qui va traquer ses ennemis intérieurs, les ennemis intérieurs du rêve américain. Et les cibles privilégiées de cette politique de délation, ce sont bien sûr les artistes, les musiciens, les comédiens, les acteurs, les écrivains, les universitaires aussi, les journalistes. Par conséquent, toutes les formes de non-conformisme, d'anticonformisme ou de critique sont pourchassées par les autorités américaines. Et puis le dernier point de cette contextualisation historique, cette Amérique est une Amérique ségrégationniste. Et c'est donc celle des luttes raciales, c'est l'Amérique du mouvement naissant des droits civiques, de Martin Luther King, de Rosa Parks, décembre 1955 Alabama. C'est donc dans ce contexte que naît à la fois la Beat Generation et Lenny Bruce. Donc c'est cette Amérique sûre d'elle-même, raciste, conformiste, hypocrite, homophobe, sectaire, puritaine, matérialiste, que Lenny Bruce prend à partie.
Some people like to rock, some people like to roll, but me, I like to sit around to satisfy my soul. I like my women short, I like my women tall. And that's about the only thing I really dig
yeah,
at all.
Well, man, well,
I belong to the B generation. I don't let anything trouble my mind.
Il y a des gens à deux doigts de mourir et qui meurent de faim dans ce pays. Il existe des situations de pauvreté, de saleté et d'humiliation indicibles ici même, dans le pays le plus riche du monde. Ce pays magnanime qui soulage sa conscience en apportant son aide à des orphelins grecs et en achetant des obligations pour Israël, mais qui laisse passer l'occasion de financer la libération sous caution dont ont désespérément besoin des Noirs américains de la sixième génération qui se battent pour leurs droits.
Christine Rimoldi, on vient d'entendre un extrait de l'autobiographie de Lenny Bruce que vous avez traduite sous le titre « Irrécupérable ». C'est une écriture de combat, l'écriture de Lenny Bruce ?
Effectivement, oui, c'est une écriture de combat, oui, de par ses causes qu'il défend. Il n'hésite pas à interpeller les autorités, les gens qu'il juge directement responsables, justement, de la situation de misère dans laquelle certains sont plongés alors que d'autres vivent dans l'opulence, ou les gens qui sont justement responsables de la ségrégation, qui l'entretiennent, qui la favorisent, qui... Il y a un de ces passages, là, dans l'émission de Steve Allen, dans les années 59, où il parle de ce qui, lui, l'offense. Il dit, on dit souvent que moi, j'offense les gens, mais moi, voilà ce qui m'offense. Voilà les mots qui m'offensent. Hein. Et il dit ségrégation, il n'a pas hésité non plus à poser avec des amis, des jazzmen noirs, des jeunes femmes noires, je pense à une photo de lui où il pose devant un... une salle de spectacle où il y a son nom en gros, il est entouré d'une jeune femme noire et d'une jeune femme japonaise. Il est comme ça, voilà, tout ça dans les années 60. Bon, je sais pas si ça se faisait tant que ça finalement, hein. Voilà, mais c'est quelque chose, oui, c'était vraiment quelqu'un d'engagé.
Voici le moment que vous attendez avec impatience. Alors passons aux choses sérieuses avec le super show de Honey la Torride. Qu'on applaudit bien fort.
Lenny Bruce, il a l'expérience, une expérience assez fondamentale dans les années 50, qui est l'expérience des boîtes de striptease. Il se produit beaucoup dans les boîtes de striptease et c'est là notamment où il rencontre sa femme, Honey Harlow. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre ?
Ah oui, tout à fait. Mais là, on pourrait presque avoir un regard biblique en se disant que voilà, tout a commencé avec la nudité. Donc, dans ces boîtes de striptease, donc Lenny Bruce, qui n'arrive pas à jouer sur les grandes scènes, bien sûr, il trouve de la place en tant que maître, entre guillemets, de cérémonie, disant, voilà, nous allons avoir un tel qui va venir et montrer son cul, voilà, vous êtes contents, etc. Et donc, en présentant toutes ces femmes-là, il va de temps en temps balancer une petite blague, un petit truc qui va quasiment jamais faire rire ni le public, qui n'a vraiment pas envie d'entendre un humoriste, et de temps en temps, quelques musiciens qui accompagnent ses performances. Donc au début, voilà, il arrive à balancer une blague. Une blague devient un truc un peu plus étoffé. Ensuite, ça devient une minute, un sketch. Et après un spectacle. Donc il va vraiment roder son material, comme on dit, dans ses boîtes de striptease. Comme d'autres de sa génération, il va beaucoup galérer vraiment, pendant pas mal d'années. Et effectivement, Honey Harlow, qui va représenter son fantasme absolu, cette femme donc magnifique, comme il va l'appeler la Shiksa Goddess, donc la déesse non-juive, parce que pour toutes ces générations-là d'humoristes américains, ils n'ont pas l'angoisse de se dire « oui, il faut se marier entre juifs, etc. Et » tout. Au contraire, c'est l'Amérique vraiment qui se mélange, qui se rencontre, c'est tout cet enthousiasme-là.
Hein? Quelle crinière.
Qui est le garçon près de la fenêtre derrière ?
Lenny Bruce, c'est un comique.
Il a du talent ?
À chier.
Il est mignon.
Mignon. Il fait de la merde.
Elle va représenter la femme justement qui n'a pas de tabou, qui est libre, qui vit sa vie, qui est indépendante, qui n'est pas là avec sa famille pesante sur elle. Rapidement, ils habitent ensemble, ils se marient... à Détroit, en 51, et après, ils vont faire plein de petits boulots. Elle continue à faire ses striptease, lui essaye de faire la scène, ça marche pas. Et là, il arrive, on va dire, un drôle de boulot qu'il va avoir de prêtre.
Sa femme, qu'il a épousée à Détroit, ne doit pas continuer dans les strip clubs, et donc doit devenir chanteuse.
Guillaume Aurignac.
Et pour ça, il lui faut de l'argent pour développer sa carrière de chanteuse. Et donc, il va monter une arnaque à Miami. Il va se faire passer pour un prêtre, il va voler une soutane, il va se faire passer pour un prêtre et il va dire que il préside une organisation de bienfaisance pour les lépreux dans la colonie britannique guyanaise. Et avec ça, il va détrousser de riches veuves de Miami, leur faisant croire que leurs dons seront bien employés.
Et donc, il fait plein de fric. Et il a cette image géniale où il dit que c'est drôle parce que quand on allait chacun à notre travail, il y avait ma soutane posée sur le lit et le string de Honey. Donc, quelle belle association. Donc, il fait ça jusqu'à un moment où il y a les flics qui commencent à repérer et ils arrivent pour l'arrêter. Et là, toutes les vieilles, une armée de vieilles qui viennent le défendre. « Nous allons vous défendre, mon père, contre l'armée de Satan qui veut vous emprisonner !» Et là, le flic lui dit « Arrête tes conneries, viens ici tout de suite !» qui essaie de l'arrêter. Et lui, il répond en prêtre en plus. « Non, mon fils, vous savez que la violence ne résout rien. » Donc, toute une scène complètement dingue. Et bien sûr, il va devoir arrêter cette profession après.
Il part du coup pour la Californie travailler dans les strip clubs.
« Ok, what is dirty ?» And what is clean? Now, if I had to make a choice, man, I would rather my kid watches a stag movie than a clean movie like King of Kings. Why? Because King of Kings is full of killing, and I don't want my kid to kill Christ when he comes back.
Vous racontez dans votre livre « Rire au temps de la honte », Guillaume Aurignac, une scène dans les années 50 où Lenny apparaît nu sur une scène de strip club. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
C'est une scène extrêmement importante dans la carrière de Lenny Bruce et même, je dirais, dans l'histoire du stand-up contemporain. En fait, Lenny donc, travaille dans les strip clubs et là, il est au Cobblestone, à Los Angeles. Et c'est vrai qu'il s'ennuie parfois parce qu'il trouve qu'il n'a pas l'attention qu'il mérite, que c'est son humour mérite, que son talent mérite, puisque le public vient pour les jeunes femmes. Et ce soir-là, particulièrement, voilà, il trouve que le public n'est pas très chaud, ne s'intéresse pas à lui. Et donc, il va un peu essayer de le choquer. À l'entrée de la dernière jeune femme, Il va aussi en coulisses et il se déshabille et il revient sur scène tout nu, avec juste un micro. Et là, c'est un absolu scandale dans la salle, parce que on vient voir des jeunes femmes se déshabiller, mais on ne vient pas voir un homme se déshabiller, d'autant plus qu'un homme qui est habillé en costume-cravate, comme le font tous les MC à l'époque. C'est typique de l'hypocrisie américaine de l'époque, cette espèce de ce rapport à la décence et à l'indécence. Et donc, ça va choquer tout le monde. En plus, il va faire mine de se masturber sur scène. Et là, il va dire, mais vous êtes choqués, mais pourquoi vous êtes choqués? Vous êtes venus pour voir des jeunes femmes, et moi, c'est un homme, et donc ça vous choque. Et à partir de ce moment-là, cet épisode, en fait, va essaimer à travers tout le réseau d'informations du petit cénacle des comédiennes de l'époque. Et donc, même à New York, où on l'avait connu, le jeune Lenny Bruce, qui se vantait de faire un humour clean, propre, pas du tout un humour de dirty toilets. Et en fait, on se rend compte qu'il a complètement changé. Il fait pire que ça, quoi. Il est venu nu sur scène. Et à partir de ce moment-là, ça lance une sorte de point de départ au stand-up contemporain, qui est de dire... Tout est permis pour le stand-up.
Et puis, il va commencer à parler des sujets très gênants, vers 57-58. Comme un sketch qui lui vaudra beaucoup d'ennemis, qui s'appelle « Comment recevoir une personne de couleur à votre soirée ?» Donc, c'est là qu'il commence vraiment à taper sur les sujets et qu'il va avoir cette notoriété.
Now, Eric Miller, I have known for 4 years. Eric Miller and I were on the road together. Eric Miller is a jazz guitarist. Eric Miller is an intellect.
Donc là, Lenny Bruce, on l'entend, c'est un enregistrement, parce qu'il commence à faire des disques, il s'enregistre dans les clubs, en fait, et on entend vraiment les bruits des verres, voilà, c'est le travail du stand-up dans les clubs. Et il parle d'Eric Miller, qui est un ami à lui, qui est un jazzman, qu'il fréquente, il en parle comme son musicien attitré, et avec qui, donc, il se retrouve dans des soirées après post-performance. Sauf que Eric Miller est noir. Et c'est pas évident encore, on est encore dans la ségrégation un peu. Et là, il raconte ce que c'est que de rencontrer des hôtes dans une soirée qui ne sont pas habitués à voir des personnes noires dans leur soirée. Et très vite, ce qu'il va faire, c'est se mettre en scène comme étant celui qui accueille. Et il va imiter finalement quelqu'un du Sud, des États-Unis du Sud, et qui s'efforce d'accueillir correctement ce jeune homme noir qui trouble un petit peu l'atmosphère, on n'a pas l'habitude de ça, mais qui s'efforce d'être tout à fait correct avec lui.
Oh, I had a wonderful time. Oh, I really stumped myself. Oh, boy, I tell you. I didn't get your name.
Miller,
my name is Anderson.
Anderson, glad to know you.
Pleasure indeed, sir. Mm-hmm. Pleasure indeed.
Et sauf que plus il s'efforce d'être correct, plus évidemment, il montre à quel point il a un impensé raciste, malgré lui, parce qu'il cherche à être poli, et donc il va employer tous les stéréotypes du genre, donc parler de « il n'y a pas de pastèque », par exemple, « je suis désolé », le seul artiste noir qu'il connaît, c'est un boxeur, et tout ça pour essayer de mettre à l'aise ce musicien noir, et en fait, ça révèle sa méconnaissance totale de la communauté afro-américaine, son usage de stéréotypes raciaux, et aussi, probablement, une sorte d'effroi, parce que le sketch va se terminer, il va parler de sa sœur, et il fait, globalement, ne touche pas à ma sœur, par contre, hein, voilà.
Aunt Jemima.
No, no, I don't know Aunt Jemima.
What the hell is that guy, you know that guy in a cream of wheat box?
No, I don't know him on the cream of wheat box.
Et ce qui est très beau, c'est que le personnage de Eric Miller, qui est un peu joué par parfois par Eric Miller et parfois par un autre stand-upper afro-américain, en fait est très doux, très calme, et ça raconte quand même tout ce que fait la communauté afro-américaine pour supporter ce racisme endémique des États-Unis à cette époque.
No offense, you know what I mean?
Ce serait quoi, si on devait le caractériser, le style de Lenny Bruce?
C'est assez difficile parce que c'est un mélange de pas mal de choses. Voilà. Ses influences yiddish, on en parlait, jazz, le stream of consciousness, qui va être utilisé par Kerouac aussi, quand il va mettre son rouleau dans sa machine à écrire et puis tout balancer. Ça veut dire, c'est vraiment prendre des choses que je ressens et que je vais amener dans les montagnes russes, face au public, qui va être mal à l'aise. Parce que c'est ça, cette belle qualité. Il faut que le public soit mal à l'aise. Si vous êtes un peu trop assis tranquillement dans votre fauteuil, c'est que le spectacle n'est pas bon. Il faut que cet humoriste soit un peu gênant, un peu comme Mohamed Ali qui va venir sur le ring et qui va vous frapper peut-être à un moment, vous n'êtes pas bien. Et donc, ça, ça force. Donc, il va utiliser de l'impro, il va utiliser ces références-là, mais il sait déjà plus ou moins ce qu'il va dire. Donc, c'est un mélange voilà, de toutes ces influences.
Dans ses mémoires, il dit qu'il devient un orfèvre à un moment, justement à force de pratiquer, et qu'il pouvait donner une forme humoristique à presque tout. Est-ce que ce serait ça, un des savoirs et un des secrets de Lenny Bruce ?
Oui, c'est lui qui a amené ça. Il faut savoir que donc à l'époque, les comédiens arrivaient sur scène avec des blagues très écrites. Alors parfois même, c'était pas eux qui les écrivaient. Il y avait des écrivains spécialisés en blagues et qui vendaient leurs blagues parfois à plusieurs comédiens parce qu'il y avait pas d'exclusivité forcément. Et donc c'était très embarrassant parce que deux comédiens différents pouvaient faire une même blague. Et c'était problématique. Quand arrive Lenny Bruce, ce que fait Lenny Bruce, et c'est vraiment son travail de strip club, parce qu'en fait, il n'est pas surveillé dans les strip clubs. Son public, c'est le public de gens qui viennent voir de cadres moyens fatigués, qui viennent voir vaguement des jeunes femmes donc se déshabiller devant leurs yeux. Et donc, il n'est pas jugé sur ses blagues. Et par contre, il a quand même ce principe qui doit conserver leur attention, alors qu'ils sont pas venus pour ça. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un travail fondé sur ce qu'il ressent dans la journée, sur ce qu'il lit, ses lectures, sur ce qu'on lui parle de ses lectures, parce que c'était pas forcément un grand lecteur, mais c'est quelqu'un qui écoutait des grands lecteurs lui parler des livres qu'ils avaient lus. Et après, il traduisait ça effectivement sous forme de blagues, avec un point de vue un peu humoristique, décalé, et qu'il se mit à improviser en fait sur les scènes de strip club. Et c'est comme ça qu'il a travaillé son humour, son registre, ce sens d'improvisation et de décalage à partir d'une matière très particulière, qui était une matière sur, on va dire, sur la société américaine, vue à travers des écrivains, des essayistes et parfois l'actualité.
Et c'est là qu'émerge quelque chose comme une forme, comme le sketch, par exemple ?
Disons que le sketch, le beat, ce qu'ils appellent le beat aux États-Unis, ça existait quand même, mais c'était sous forme de... chaque comédien, en fait, pouvait jouer un personnage. Et progressivement, ce qu'a fait Lenny Bruce, c'est que les personnages qu'il jouait commençaient à ressembler à des personnages qu'il avait rencontrés. Et c'est-à-dire que sa vie commençait à se mêler à cette espèce de fictionnalisation des personnages. Mais il a continué effectivement à utiliser les personnages, à faire des sketchs, parce que ça lui servait à commenter la société américaine à travers des archétypes d'individus américains.
Vous avez vu ça ? Des gosses de 8 ou 9 ans se défoncent en sniffant de la colle pour moquettes d'avion. Non, mais c'est à cause de ces mômes que les musiciens découpent des choses dont ils n'avaient jamais entendu parler. Alors je me suis imaginé comment ça se passe. Le gosse est seul dans sa chambre, on est samedi. Le petit est interprété par George McCready. Voyons, je suis seul dans ma chambre et on est samedi. Je vais faire fabriquer un avion. Voilà ce que je vais faire. Un Lancaster, bon design. Je récupère du bazar, je le découpe, je le ponce dans la colle pour avion. Je l'étale sur un chiffon et là... Je plane. Donc se défoncer avec de la colle pour maquette d'avion. Ça manque peut-être un peu d'air ici. Je vais appeler mon chien. Félica, viens mon chéri. Renifle le chiffon. Renifle petit kleps des accès. Sniff.
Félica. He's up there. I've done it.
J'ai réussi.
I'm the Louis Pasteur of junkiedom.
Je suis Louis Pasteur des junkies. M'a fait exploser la tête pour 10 cents. Bon, il y a encore beaucoup à faire. Des sabots de chevaux à faire fondre, des nez à préparer. On se retrouve dans une boutique de jouets, n'importe laquelle, dans n'importe quel quartier, le gosse entre.
Salut Chandler, belle boutique que t'as là. Donne-moi pour 10 cents de crayons, de jujubes, Tailspin Tommy Book. Et deux livres de Tommy l'Aviateur.
And 2000 tubes of aeroplane glue.
Et 2000 tubes de colle pour maquette d'avion.
L'improvisation est bien sûr importante, mais Lenny Bruce vit comme les poètes de la Beat Generation, les écrivains de la Beat Generation dans un temps de jazz. Ils savent ce que c'est qu'improviser. Improviser se fait toujours dans l'absolue maîtrise, j'allais dire, de la ligne mélodique, du rythme mélodique. Et donc, de ce fait, il y a effectivement, à travers le stand-up, cette impression pour nous, spectateurs, auditeurs, d'une improvisation. Or, c'est une improvisation qui se construit sur un texte parfaitement construit, maîtrisé, sémantiquement maîtrisé. Tout est affaire de sémantique, ne cesse de répéter Lenny Bruce dans ses sketchs. Voilà.
Il ne choisit pas ses mots au hasard.
Il ne choisit pas ses mots au hasard, bien sûr.
Vous dites aussi que le stand-up chez Lenny Bruce, c'est un art de la conversation avec le public. En quoi, Guillaume Aurignac ?
Alors, c'est quelque chose qu'il a appris encore une fois sur les strip clubs. Il y a un phénomène traditionnel dans le stand-up qui s'appelle les éclairs. Les éclairs, c'est ceux qui interrompent en fait l'humoriste sur scène parce qu'ils se trouvent peut-être plus drôles que lui ou qu'ils le trouvent nul et veulent le faire savoir. Et souvent, ce sont des gens un peu ivres et qui se disent « mais moi, je peux être aussi drôle ». Et généralement, dans cette tradition-là, les stand-uppers détestaient ça et se mettaient à faire des blagues très vite pour détruire la personne du public qui les interrompait. Ce que va faire Lenny Bruce, lui, c'est qu'il va utiliser les éclairs. Et il va se dire, en fait, si je veux la liberté d'expression pour moi, je dois la vouloir pour tout le monde. Et la vouloir pour tout le monde, c'est accepter qu'il puisse être interrompu.
It doesn't matter. I'm an existentialist, sweetheart, so you can't... No. Okay, now back to... No, it doesn't matter. What? All right, I'll wait, Miss Brooks. What? Don't get it on the suit. That's what I said. What? I said existentialist. Listen, forget it. Listen, you'll end up in the trunk with Dr. Shepherd. They'll get you the gas in the face. You like it. Don't. Look, it's nice. It's really nice. See? I've got a traumatic kind of... No, I like the... I want to go home with the three of you. I'll sit on the bed. I won't touch anybody. I'm one of those guys. I'll just watch. Listen. A lot of guys promise, you know, they say, oh, yeah, you promised you wouldn't touch her, but you did.
Il accepte d'avoir des conversations avec des gens dans le public. Sauf que comme il est tellement plus brillant et tellement plus féroce, au bout de deux minutes, la question est réglée. C'est lui qui est le plus drôle, c'est lui qui est le plus cru, et donc très vite, la personne du public qui a osé l'interrompre va comprendre qu'il faut que ça rassoie et qu'elle écoute Lenny Bruce. Et donc, cet art de la conversation-là est né aussi comme ça. Et après, il y a aussi tout un travail rhétorique qui est que, en fait, on n'a jamais l'impression que c'est écrit, que ça a été pensé avant, que c'est vraiment sur le fil de la performance, en fait, qu'il est en train d'improviser, et comme s'il avait une sorte de conversation avec des gens qui étaient à table, en fait, et que c'était le convive le plus drôle, le plus intelligent, le plus brillant de la table. Et c'est comme ça qu'il travaille son stand-up.
Est-ce que c'est peut-être pour ça que l'histoire du stand-up n'est pas identifiée comme une histoire des formes? C'est que c'est tellement simple et que ça a l'air tellement naturel que c'est très difficile d'identifier les inventions ou ce que fait Lenny Bruce, par exemple, Guillaume Aurignac.
Absolument. On a toujours l'impression que... Et c'est pour ça qu'il y a des éclairs. Hein, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on peut le faire, en fait, que chacun peut le faire. Ce qui n'est pas du tout le cas. C'est un énorme travail. D'abord, il faut assurer une présence sur scène qui n'est pas évidente. Et après, c'est un énorme travail de rythme, en fait. Comment utiliser les rires, comment utiliser les blancs et comment utiliser les bides aussi. Parce qu'il y a des bides, forcément, ça ne marche pas toujours. Et comment on rebondit sur un bide? Comment on n'est pas enfermé dans cette toile d'araignée du bide? Parce que le public, il a des réactions. Et il faut utiliser ces réactions-là dans le stand-up.
By the way, are there any niggers here tonight?
En fait, il y a des négros ici ce soir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a perdu la boule ou quoi? Il y a des négros ici ce soir. Il est désespéré à ce point pour vouloir choquer son monde. Il faut vraiment qu'il ait touché le fond pour dire un truc aussi cruel qu'il y a des négros ici ce soir. J'ai jamais parlé des Schwartz quand ils ont quitté la salle. Ou des Moricauds. J'ai jamais apaisé un sudiste par mon silence quand il délirait sur les nègres. Il y a des négros ici. Vous savez que je bosse avec les négros. Je pense qu'il y a un couple de négros là-bas, entre deux négros et trois youpins. Dieu merci pour les youpins. Et il y a deux mariachis et un Irish.
J'ai deux mariachi, un Irish, trois youpins et un beau petit blanc plein de cran. Qui dit mieux? Trois yutes de plus, huit bouffeurs de haricots, sept rital, six chicanos gominés. Je passe à sept gouines, quatre youpins, huit négros. Ce que je veux dire, c'est que si le président Kennedy passait tous les jours à la télé et qu'il disait « Je vais vous présenter tous les négros de mon gouvernement » et que tous ces négros s'appelaient négros entre eux et que chaque jour on entendait « négro, négro, négro », au bout d'un mois, négro n'aurait pas plus de sens que « bonne nuit » ou « à vos souhaits » quand on éternue ou encore « je promets de dire la vérité, toute la vérité, je le jure, je le jure, je le jure ». Alors le mot « négro » perdrait son impact et plus jamais on verrait un petit nègre pleurer en revenant de l'école.
L'attaque de ce sketch est assez formidable.
Are there any niggers here tonight?
Et puis, en même temps, il se met à la place du public immédiatement, en disant « Ouh, mais il est fou ce type.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Qu'est-ce qu'il a dit ?» Hein? Et en fait, comment décharger un mot raciste de sa signification raciste, de l'idéologie raciste qu'il véhicule ? Nébrous propose, ici c'est une proposition qu'il fait, mais qui dans le cadre du sketch est audible et très intéressante. Multipliez-le. À l'infini, saturez-le de répétitions. Répétez-le jusqu'à ce que le mot soit épuisé de la substance raciste qui l'empoisonne. C'est intéressant parce que, effectivement, voilà un sketch qui est irrecevable pour la société américaine dominante, mais en même temps qui se tient sur le plan du langage et qui explique comment sortir de cette trame raciste de la société américaine. Eh bien, en lui volant ces mots et en les resémantisant autrement.
Mais non, je vais de briques. Hein? Bon, non. Mais enfin, quand même, c'est bon. Je vais quand même voir. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi.
Est-ce que le sketch de Pierre Desproges qui démarre par « On me dit qu'il y a des juifs dans la salle » est une citation directe de ce sketch de Lenny Bruce ?
Alors, tout à fait. Ça a été confirmé par sa femme, Hélène Desproges, que j'ai pu rencontrer également pendant ma thèse. Et donc, et vraiment, il va très très loin dans ce sketch. Et Michel Denisot lui a posé la question à Canal, lui a dit « Vous n'avez pas eu des problèmes avec les juifs ?» Il a dit « J'en ai eu surtout avec les antisémites ». Lenny Bruce, quand il parle d'homosexualité, qu'il parle de racisme vis-à-vis des Noirs, il n'est ni homosexuel ni noir. Desproges, quand il parle d'antisémitisme, il n'est pas juif. Donc c'est ça aussi à notre époque qui est très important. Il ne faut pas qu'on aille vers une ségrégation culturelle où ce sont les Noirs seulement qui peuvent parler de racisme vis-à-vis des Noirs, les Juifs seulement d'antisémitisme, les homosexuels d'homophobie, parce que sinon, on va faire le jeu des racistes et chacun, entre guillemets, va défendre que sa cause, son petit drapeau. Et là, ça va être des ghettos que les gens vont s'imposer eux-mêmes en communauté, etc. Et là, on retournera effectivement à l'ère qu'on pense pouvoir dépasser aujourd'hui.
Dans son autobiographie, il a une phrase, Lenny Bruce, il dit « Croyez-le ou non, l'idée d'être un martyr me terrifie ». Comment vous l'entendez, cette phrase, Olivier Penola-Cassagne ?
Il va quitter peu à peu la scène intime, intimiste, en tout cas réduite, mesurée des cabarets, des clubs dans lesquels il se produit, pour tout à coup, à partir de 1959, apparaître sur les écrans de télévision, écran de télévision que partagent de plus en plus de familles américaines. Et tout à coup, cette voix réservée au cabaret, un certain type de cabaret nocturne.
Au bas-fond, au milieu interlope.
Exactement. Devient une voix publique nationale. C'est à ce moment-là que, justement, la dimension iconique de Lenny Bruce devient éclatante et de ce fait, visible, audible et dangereuse. Il est, dès lors, cet artiste qui se produit et qui certes se produit dangereusement, Hein, chaque soir, les tenanciers de bars ou de cabarets se demandent jusqu'où il va aller, mais il n'y a pas de surveillance policière qui s'organise autour de son propos. À partir du moment où il devient figure publique, il devient extrêmement dangereux et il devient peu à peu le martyr d'une certaine contestation américaine. C'est indéniable.
Oh, by the way, before I continue,
Ovette, avant que je continue. L'obscénité. Ouais. Vous savez ce que veut dire obscénité, pareil? Si je fais un spectacle dégueulasse, ou utilise n'importe quel mot dégueulasse, si je décide de parler de porc, c'est mon droit en tant que citoyen américain de parler de porc sur scène, même si ça dégoûte les végétariens, les juifs et les musulmans. C'est mon droit. Et si vous, là, les communistes, voulez supprimer ce droit de parler de jambon et de porc, ben pas de problème. Et maintenant, si je fais un spectacle vulgaire, que je chante des chansons de rock, juste le style le plus vulgaire, hein, mais ça, c'est pas obscène. L'obscénité a un sens bien spécifique. Stimuler votre lascivité, vous exciter.
À l'époque, on est à la fin des années 50, début des années 60, il y a encore des lois sur l'obscénité dans chaque État fédéré, et il y a juste un premier amendement au niveau fédéral qui parle de liberté d'expression, mais qui ne protège pas, a priori, les questions d'obscénité. Donc, en fait, à chaque fois que Lenny Bruce va, à la fin des années 50, début des années 60, utiliser des mots crus sur scène, eh ben, les policiers vont progressivement intervenir et l'arrêter pour infraction aux lois sur l'obscénité de l'État dans lequel il se trouve.
Et le premier procès qu'il aura à San Francisco, donc pour un sketch en 61, donc il va être sur place, et, pendant son spectacle, et il est en train d'imiter une conversation avec un manager qu'il a envoyé à San Francisco. Il dit « Ouais, qu'est-ce que tu m'as envoyé dans cette ville de cocksuckers ?» Et cocksuckers, c'est un praticien de la fellation, pour être un peu neutre. Et donc, à un moment, donc, il se fait arrêter par les flics à cause de ce mot, amené devant le juge, et qui lui dit « Je vous interdis de dire ce mot !» Et alors, le juge, lui, naturellement, qui dit au juge « Quel mot ? Vous m'avez très bien compris, c'est interdit de parler de cette pratique homosexuelle. » Lui va dire « Mais pourquoi ce serait une pratique limitée aux homosexuels ? Les femmes contemporaines aiment aussi faire des fellations. » Et donc, il va beaucoup jouer là-dessus, et va commencer une dialectique entre lui et la justice sur la liberté d'expression d'un point de vue scénique au début, mais petit à petit, avec tous les procès qui vont s'enchaîner, San Francisco, LA, Chicago, petit à petit, ça va devenir vraiment une obsession. Et là, il va rentrer dans... ces spectacles vont être vidés de plus en plus d'art et de plus en plus remplis de droits, d'interprétations, etc.
Dieu nous a créés avec un corps. Et donc, j'aimerais souligner le paradoxe qui pousserait les gens bien pensants à s'indigner devant cette affriolante créature. Bien, disons que je suis en train de m'habiller et que je vois cette fille-là, Miss Septembre, par ma fenêtre. Je vais regarder.
C'est fini, Bruce.
Mais dans notre société, il faut plutôt tirer les rideaux et aligner $2 pour entrer.
Allez, on y va tout de suite.
Vous voyez, la répression, c'est ça. La loi sur l'obscénité se résume à une seule question. Est-ce une incitation à la lubricité ? Eh bien, je veux savoir ce qu'il y a de mal à inciter à la lubricité. Je veux que la Cour suprême me dise clairement que baiser, c'est sale et répréhensible.
Il y avait deux volets, deux versants à ces procès, les procès pour obscénité et puis les procès pour enfin les arrestations multiples pour détention de stupéfiants, pour toxicomanie, pour tout ça. Donc il devait se battre sur deux fronts et voilà quoi. Donc tout ça l'obsédait et puis je crois qu'à la fin, il était devenu un petit peu paranoïaque. Hein. Il avait des bobines et des bobines entières d'enregistrement dans sa chambre, des procès, des choses. Il avait sur lui des, par rapport à sa toxicomanie, bon, qui en fait est avérée. Hein. Il avait sur lui des ordonnances en permanence prouvant qu'il avait besoin de tel, tel et tel truc pour soigner sa narcolepsie ou son, voilà, enfin bon, que c'était médical et non pas. Drogue de plaisir, si on peut dire. Voilà, donc je pense qu'il était complètement obnubilé par ça, oui.
Quelle était la question, s'il vous plaît ?
Sans vouloir vous offenser, l'expression « se faire sucer » s'entend-elle fréquemment dans les commissariats, oui ou non ?
Il m'est arrivé de l'entendre.
Eh oui, vous avez donc entendu l'expression « se faire sucer » dans un commissariat qui est un lieu public. La satire de M. Lennybrousse s'apparente à la satire sociale que l'on trouve dans les œuvres d'un Aristophane ou d'un Jonathan Swift.
Votre honneur, nous ne citons pas Aristophane à la barre.
Il faudrait le convoquer.
Pour lui, l'obscénité, c'est pas ça.
Christine Rimoldi.
L'obscénité ne se tient certainement pas dans les mots. La violence, la brutalité, l'obscénité se trouvent, par exemple, dans le comportement de certains dignitaires religieux qui vivent dans l'opulence, dans la richesse, alors que leurs fidèles, on ne peut plus fidèles, vivent dans la misère et qui s'en fichent, si vous voulez. Voilà. L'obscénité, pour lui, elle se trouve également dans la guerre, par exemple. Et il trouvait la guerre beaucoup plus obscène que la pornographie, par exemple. Il avait une phrase qui disait que rien de ce qu'on pouvait faire avec le corps de l'autre n'était obscène. À 4, à 6, à 8, tout seul. Pour lui, c'était pas ça l'obscénité. L'obscénité, rien de ce qu'on pouvait faire avec le corps d'autrui n'était obscène. L'obscénité, elle se tenait simplement dans le fait de tuer un corps. Et il disait, Hiroshima, pour moi, c'est obscène. Voilà. And I don't know why, but never again will we get together to die. Vous citez dans Rire autant de la honte, des propos de Lennybrousse à un procès, il dit « N'enfermez pas ces 600 mots, c'est ce que vous faites, me retirez mes mots et les enfermez loin de moi, ces paroles ne pourront plus jamais être prononcées, vous m'achevez. » Est-ce que ce serait de ça qui serait mort d'une certaine manière, Lennybrousse, pour vous ?
Oui, il perd donc son dernier procès en 64, il le perd, il est condamné pour obscénité donc, et à partir de là, il ne va plus jouer sur scène, et en fait, quelques mois après, on va le trouver mort d'une overdose de morphine. Alors c'était aussi il faut le dire, c'était quand même un junkie. Il était complètement, il avait des addictions multiples et dures. Il consommait de l'héroïne et ça lui, voilà, il a fini par mourir d'une overdose. Mais en même temps, une overdose, c'est parce que il ne lui restait plus que la drogue. Il ne travaillait plus. Il était dépressif. Ça n'allait plus. Et donc, d'ailleurs, à sa mort. Un assistant du procureur qui a donc conduit son dernier procès a regretté, en fait c'est nous l'avons tué avec ce procès, et le producteur Phil Spector a dit qu'il était mort d'un excès de police, en fait. Un journaliste a dit Lennybrousse est mort à 40 ans, il avait 40 ans, c'est ça qui est obscène.
Il décède par overdose dans une chambre d'hôtel en 1966. Mort de Lennybrousse qui est présenté par la police au public sous la forme d'une mise en scène, ça n'est pas rien. Lorsque le Che disparaît dans les montagnes de Bolivie, le gouvernement veillera à montrer une image du Che mort. Lorsque Lennybrousse disparaît, la comparaison est forcée, bien sûr, mais il s'agit de montrer que cet homme-là ne parlera plus, d'une certaine façon, et que la déchéance de son discours se termine dans sa déchéance de drogué qui se termine sur le carrelage d'une salle de bain dans un hôtel ou dans un motel américain.
On a fait un film sur sa vie depuis, avec Dustin Hoffman. Mais d'après mes copains américains qui l'ont connu en vrai, il paraît que ça n'était pas tout à fait exact comme film. On insistait beaucoup trop sur le côté camé du personnage.
Guy Bedos.
Camé, il l'était. Mais c'est pas vraiment de ça qu'il est mort, à ce qu'on m'a dit. Lennybrousse avait eu en outre l'audace d'ouvrir sa gueule contre un certain genre de gens responsables qui se permettent d'envoyer une bombe atomique sur Hiroshima, exterminant des milliers et des milliers de personnes innocentes, qui, les mêmes ou leurs semblables, dans la foulée, quelques années plus tard, se font griller au napalm des enfants vietnamiens dans les rizières du coin, mais qui, toujours les mêmes, sans se gêner, envoient un type en tôle pour obscénité parce qu'il a osé dire le mot « enculé » sur scène. Et de quel côté elle est, l'obscénité ? Elle est où, l'obscénité ? Enculé !
Très peu de gens de sa profession ont eu le courage de le défendre. Et c'est peut-être ça le plus violent. C'est-à-dire, ils l'ont laissé, entre guillemets, crever. Et pour moi, c'était l'image que j'avais eue avec Charlie Hebdo. C'est, comme disait Charles, le plus dangereux, ce ne sont pas les islamistes, mais c'est que personne ne nous soutient. Et là, ils avaient effectivement très peu de soutien. Et quand on a très peu de soutien et qu'on est menacé, comme l'était Lenny Bruce ou Charlie Hebdo, là, on est une cible plus facile, plus visible. Donc, il a fini, voilà, ruiné, seul. Et donc, c'était très violent dans cette dialectique infernale avec la justice et avec aussi surtout ses collègues qui ne le soutenaient pas.
Ça fait de Lenny Bruce le dernier grand satiriste américain?
C'est probablement, en tout cas, celui qui a souffert dans ses chairs d'avoir satirisé l'Amérique. Parce que à partir du moment où les stand-uppers ont gagné, c'est-à-dire qu'ils sont devenus célèbres, qu'ils sont passés dans toutes les émissions télé, et surtout, il y a une illustration de ça, c'est qu'au dîner de gala des correspondants de la presse américaine, qui est un dîner de gala annuel, où en fait se rend le président américain avec tout l'establishment de Washington. Il y a une tradition désormais depuis 1976 du roast, c'est-à-dire qu'on se moque du président américain, et cette tradition, elle est dévolue en fait à un comédien de stand-up. Ça veut dire qu'ils ont été intégrés dans l'establishment. Donc on peut dire que Lenny Bruce a été le dernier grand martyr de la satire américaine, et qu'après, effectivement, c'est devenu du côté plutôt majoritaire, ça s'est intégré dans les médias, et on l'a vu, les présidents, enfin, le président, par exemple, Barack Obama, était un stand-upper lui-même, c'était le roi du stand-up. Donc c'est les présidents, les hommes politiques eux-mêmes ont intégré les blagues de stand-upper dans leur communication politique. Lenny Bruce is dead. But his ghost is on and on. Never did get any Golden Globe Award. Never made it to Cinnamon. Pourquoi, alors qu'aujourd'hui la forme du stand-up est plutôt hégémonique et très très répandue, son histoire est si peu connue, et l'histoire de Lenny Bruce aussi, puisqu'il faut le dire, c'est pas quelqu'un d'extraordinairement célèbre.
Lenny Bruce n'est pas extraordinairement célèbre, mais je me permettrai d'évoquer Bob Dylan, parmi d'autres, qui en 1981 enregistre une chanson dédiée à Lenny Bruce. Et voilà ce qu'il dit. Lenny Bruce est mort, mais son fantôme vit toujours. Il y a une présence spectrale de Lenny Bruce. On le connaît mal, on le connaît peu. Il appartient au répertoire américain. Mais il a, en réalité, c'est le fantôme de Lenny Bruce, c'est le fantôme de la libre expression. Et cette libre expression, il l'a portée loin, très très loin. Qu'a-t-on le droit de dire? Que doit-on ne pas dire? La liberté d'expression connaît-elle des limites? Avec ou sans Lenny Bruce, je dirais que nous faisons tout le temps, partout dans le monde, cette expérience de la libre expression. Cut off any baby's head. He just took the folks in high places and he shined a light in their bed. He's on some other shore. He didn't want to live anymore. C'était Lenny Bruce, pionnier et martyr du stand-up, avec Christine Rimoldi, traductrice de l'autobiographie de Lenny Bruce, publiée aux éditions Tristram sous le titre Irrécupérable, Steve Krief, auteur d'une thèse sur Lenny Bruce, Olivier Pénaud-Lacassagne, professeur de littérature américaine à Paris 3, Guillaume Aurignac, critique de cinéma. Extrait des sketchs de Lenny Bruce, doublé par Thierry Beauchamp. Extrait du film Lenny de Bob Fosse avec Dustin Hoffman et de la série The Marvelous Mrs. Maisel avec Luke Kirby. Prise de son, Manon Moussin et Alexandre Dang. Coordination, Anaïs Kien avec Sylvia Favre. Un documentaire de Romain Debecq-Delièvre et François Testre.